Quatrième et dernière émission consacrée au mystère du mal, après avoir tenté d'en définir les contours, puis vu qui étaient nos ennemis et comment faire face à la souffrance, des émissions que vous pouvez retrouver en podcast sur rcf.fr. Aujourd'hui, nous nous demandons que fait Dieu face au mal, puisque l'homme est libre. Est-ce que Dieu souffre avec nous? On entend parfois dire que tout est entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Élément de réponse tout de suite avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste.
Psy et Spi avec le père Jean-François Noël, dialogue RCF.
Bonjour à tous et bonjour père Jean-François.
Bonjour Sophie.
Alors, le mal, difficile de réagir hein, face au mal. On voit certaines philosophies ou courants de pensée comme le stoïcisme qui choisissent un peu d'anesthésier sa sensibilité pour supporter le mal. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, bah, c'est une position qui a été d'ailleurs, c'est un peu ce que vous dites est vrai et en même temps réducteur parce que c'était, il y avait quelque chose du côté de la.
Oui, non, mais j'écoute mais ça, parfaitement, c'est... tout à fait, réducteur.
mais ça, parce que quand on lit en fait de près quand même les Marc Aurèle et compagnie, on voit bien que les choses sont un peu plus complexes et profondes que ça. Ça donne vraiment à... En fait, c'est assez intéressant, le stoïcisme dans sa belle tenue est un précurseur du christianisme. En ce sens qu'il y a un lieu invincible dans l'homme, que normalement que le mal ne peut pas atteindre. C'est ça en fait l'idée. Et que... Alors c'est ce que nous on va appeler la vie intérieure ou l'espace intérieur. Et qu'au fond, enfin... Si on se bat pour que le cœur, le lève, comme le dit l'Ancien Testament, soit de fait résiste et ne soit pas contaminé. Voilà. Donc il y a quelque chose dans l'homme qui est plus grand que le mal qui l'entoure. Ça, c'est vraiment. Je trouve ça assez vraiment intéressant que ces philosophies romaines aient tourné autour de cette intuition judéo-chrétienne que le cœur de l'homme est peut-être imprenable parce qu'il appartient en propre à Dieu. C'est ça, en fait, l'idée. Bon. Mais ceci dit, c'est pas gagné d'avance, c'est-à-dire que le cœur soit invincible, soit un lieu de invincible, c'est pas facile. Il faut garder la porte de son cœur pour voir que le cœur soit contaminé. Et c'est d'ailleurs dès le début dans l'Ancien Testament, après que Caïn, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais tue son frère. Il a donc, c'est très intéressant, là, Dieu vient démonter l'enfermement de Caïn. J'adore vous rappeler, hein, l'enfermement, c'est vraiment une des catégories des ennemis. C'est-à-dire, le mal a atteint quelqu'un, et la personne prise dans ce piège du mal se retourne et se justifie. Je veux pas savoir, je veux rien dire, etc. Je peux pas parler. Bon. Et la première chose que Dieu fait avec Caïn, c'est de rentrer en dialogue. Sauf qu'il n'a rien dit, il a tué son frère par jalousie. Et d'ailleurs, quelle est la question que Dieu pose? C'est pas « qu'as-tu fait ?» ce que tout éducateur ou parent dit à son enfant « mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il t'a encore fait ?» etc. C'est « où es-tu ?» Pourquoi? Parce que ce « où es-tu ?», comme il le dit d'ailleurs à Adam, il le dit aussi à Caïn, après il va essayer de le faire travailler sur lui-même, parce qu'en fait, c'est en quelle position? Où es-tu en toi-même? Où es-tu parti? Hors de toi? Et donc la phrase, c'est pas une précaution pour pas, mais c'est une manière de commencer l'interrogation. Donc le problème du mal, c'est que nous sommes égarés hors de nous-mêmes. Voilà, c'est ça la violence et la, c'est ça que nous sommes pris dans les pulsions à l'extérieur de nous, et c'est ce qui fait que nous sommes perdus. C'est ce que saint Augustin aussi reprendra à sa manière. Et donc la question de Dieu, c'est où es-tu? Comme si on allait d'abord reprendre le chemin de soi-même pour revenir en ce lieu qui peut être invincible, qui est le cœur, là où Dieu m'attend pour cette rencontre.
Concrètement, comment Dieu réagit face au mal dans la Bible?
Eh bien, il donne en pâture au mal ce que le mal lui réclame, sauf sa dignité, son identité, sa force intérieure.
Quelle réponse il y a alors, du coup, enfin, concrètement, dans nos vies?
Quelque chose d'invincible. En fait, la résurrection commence dès le début. Elle commence dès le début dans le combat entre Pilate et Jésus. Quelque chose en lui est d'emblée plus vivant et vainqueur de tous les complots, parce qu'ils sont nombreux. Il y a le complot de l'ancien Sanhédrin qui veut, il y a le reniement de Pierre. Enfin, il faut voir, toutes les formes de mal vont s'acharner contre le Christ, et le Christ y oppose. Il oppose quelque chose dans son cœur qui n'est pas que son cœur, puisque de ce cœur non vaincu va naître la résurrection de son corps. Donc, attendez, c'est très important, si vous me permettez, parce que c'est pas une sorte de victoire spirituelle, super, machin, le type il est mort, mais rien en lui n'est. Non, c'est que ce cœur, ce germe qui est en lui, ce germe de résistance, cette dignité, il se tournera résolument vers Jérusalem. C'est ça qu'il est invincible. Mais ce n'est pas qu'une partie, et puis il va donner son corps, et puis son corps va mourir, ce qui est vrai. Mais par contamination, cette invincibilité, ce cœur invincible, va ressusciter le cœur, le corps.
Il fait face quand même, le Christ, à beaucoup d'hostilité.
Toutes les formes.
En fait, quand il n'est jamais contaminé.
Non. C'est que quelque chose en lui, mais même ça va de, donc, évidemment, le complot des Sanhédrins, la bassesse des Romains qui voient encore des problèmes avec ses Juifs, le reniement de son propre fidèle qui est Pierre, la trahison de Judas qui a dû quand même blesser énormément le cœur de Jésus. Je ne sais pas, toutes les formes, même par exemple la douleur de sa mère sur le chemin du Golgotha, c'est terrible de voir sa mère souffrir comme ça. C'est un des passages que je trouve le plus incroyable, où la mère ne lui fait pas peser sa propre souffrance. Vous connaissez l'histoire de Marseille ? Non, je vous la raconte.
Alors dites-moi.
Comme Marseille me pardonne à l'avance, mais disons, c'est une maman qui aime beaucoup son fils, et qui dit à son fils, si tu te fais écraser, je te tue. Voilà, ça c'est ça l'amour.
C'est ça. C'est une mère en même temps.
C'est une mère, voilà. Si tu te fais écraser, je te tue. Parce que l'amour d'une mère, voilà, peut tellement souffrir qu'elle peut peser sur le cœur. Bon, et Marie ne fait pas peser sa propre souffrance sur le cœur de Jésus. Elle laisse accomplir sa mission. Sinon, elle le prendrait en chantage dans sa propre souffrance. C'est ça la compassion de Marie. C'est une juste partage. Elle prend sa part sans le faire peser sur le cœur de Jésus. Ça, c'est absolument génial comme idée. C'est dans le film, d'ailleurs, de La Passion de Gibson. C'est un des endroits les plus intéressants, où Marie, qui est jouée par une vieille roumaine, donc elle est déjà un peu ridée, quand elle voit son fils tomber, elle dit « Voici l'agneau de Dieu qui accomplit ». Donc elle le confie dans sa mission. Enfin bref, je me suis un peu égaré. Je reviens.
Non, mais je vous écoute. Hein.
Je reviens assez. Donc il y a quelque chose dans que le Christ ne met pas en partage dans la complicité du mal, qui est quelque chose de sa filiation, sa relation, qui lui permet de... Il y a quelque chose qui a résisté. C'est-à-dire, c'est comme ça que j'interprète les reliques. Parce que, évidemment, c'est bizarre, les reliques, quand même. C'est un petit bout de métacarpe de la sœur Bidule, ou un petit bout de je sais pas quoi, un bout d'os qu'on a trimballé d'église en église et qu'on a considéré. Pourquoi ? C'est Adjad qui dit ça, je trouve ça assez joli. Fabrice Adjad, qui a toujours des propos assez comme ça, directs. Et il dit, c'est le petit bout de résurrection qui a résisté à la mort du martyr. C'est symbolique, évidemment, parce que la métacarpe, on n'en sait rien, c'est pas plus symbolique que le bout de doigt de pied. Mais c'est ce petit bout à partir duquel tout le corps va être tissé. Et ça c'est intéressant. C'est une vraie définition. Chez nous, les catholiques, nous pensons qu'en fait, le corps, c'est la fameuse vision d'Ézéchiel, va se retisser. En fait, il a l'air détruit, il a été abandonné, il est mort, il est défait. Mais il y a un élément, il y a un germe qui va permettre que le corps entier va ressusciter. Et c'est ça que dit le Christ face à la souffrance. Non pas, tu as eu mon corps, tu as eu ma joie, tu as eu mon espoir, tu as attrapé tout ça. Mais quelque chose est plus invincible, comme une émeraude, comme un trésor précieux, qui est que Dieu ne peut pas abandonner les siens et va retisser tout le corps. Donc le corps de Jésus va revenir. Puis le corps de Jésus, c'est le corps de l'Église, et puis chacun de nos corps qui ont l'air abîmés par la vieillesse, la maladie ou la déchéance ou notre propre complicité du mal, va être tissé à travers de ce petit germe-là, si nous avons la foi.
Pourtant, la réponse, parfois, c'est pas toujours simple. Même le Christ, quand il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Ça va jusque-là, c'est-à-dire qu'il est même atteint dans il est même atteint dans sa confiance qu'il a dans le Père, il est même atteint dans cette espérance d'être sauvé. Mais ça va jusque-là. Mais c'est au-delà de ça. Il y a quelque chose qui résiste plus. Hein, c'est la fameuse dignité du Christ. Ça nous permet de mieux comprendre comment nous pouvons lutter par rapport au mal, si en opposant une invincibilité intérieure, au moins un non-consentement. C'est-à-dire que c'est la seule chose parfois qui me reste, c'est que je ne veux pas consentir même à ce que le mal que je fais moi-même. Parfois, je dis du mal, je pense de mal, et en fait, en moi, quelqu'un n'est pas d'accord. Et c'est ça, ma résistance.
Alors là, on est dans le domaine de la foi, et je me demandais, donc, on parle donc du péché, du mal, est-ce que le péché laisse des traces psychologiques importantes Parce oui. qu'on est en train de parler de foi, mais vous voyez, il y a des choses. Je reviens à des choses un peu plus terre à terre, des traces psychologiques, dont parfois on a du mal à.
Mais vous pensez à quoi ? Pensez à quoi ? Parce que vous avez une idée en derrière la tête, là.
Non, bah, je ne sais pas. Quand on a vécu une agression ou autre, vous voyez, ce sont des choses. Alors, on en a parlé au cours de plusieurs émissions. C'est vrai que le pardon est un chemin long, on n'y va pas trop vite, je sais. Mais vous voyez, le pardon, est-ce que après soigner le psychisme, est-ce que ça demande pas aussi plus de temps ? Comment on s'y prend ?
Oui, parce que par exemple, moi, je prends une idée. Je prends un exemple dans mon cabinet. Quelqu'un me dit, en fait, ma mère m'a jamais aimé. Bon, elle a toujours préféré mon frère. Bon, parce que je sais pas quoi, il était plus beau, plus sportif, plus rigolo que moi qui étais. Voilà. Bon. Et puis donc, c'est pour ça que j'ai fait des problèmes, que je me suis mal marié, que... Et que par conséquent, d'ailleurs, c'est pour ça que... Voilà, bon.
Alors, les donc... pauvres mères, elles ont toujours hein, bon, tous les torts.
Non, mais non mais vous allez voir, en fait, ça va à la réhabilité. Laissez-moi juste jusqu'au bout. Et puis ce monsieur que j'écoute, bon, je prends un exemple comme ça, mais un peu multi-exemple, en fait, découvre que, en fait, c'est pas si simple que ça. C'est pas uniquement sa mère qui l'a moins aimé, c'est qu'il était pénible, qu'il était jaloux. Et qu'en étant jaloux, sa mère avait du mal à le rejoindre, en fait. C'est pas qu'il n'était pas aimé de sa mère, c'est qu'il se laissait pas aimer par sa mère. Et qu'elle elle souffrait de sa raideur. Et donc, il faut toujours passer, quand on fait un travail, de la première plainte, qui est « c'est la faute de », à « quelle est ma complicité ?» Pour que de cette complicité, il se défasse, de cette complicité un peu arrangeante, et pour qu'il... il se décide à ne plus consentir à être jaloux de son frère. Par exemple, je prends cet exemple-là. Et c'est ça qui fait la beauté et la liberté de chaque individu, par un travail thérapeutique ou non, peu importe. Après, on peut le faire, on peut aussi réfléchir et repenser à sa vie, comme je le dis souvent, pour que ce non-consentement, peut-être donné tardivement, mais quand même, me permette de me dégager du piège dans lequel j'étais rentré, qui a fait croire que je n'ai pas été aimé de ma mère et tout ça. Est-ce que l'exemple est plus parlant ?
Oui, très bien.
Merci.
Et on se terminera sur cet exemple. Voilà. Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, de nous avoir partagé une nouvelle fois vos éclairages, à la fois en tant que prêtre et psychanalyste sur cette question du mal. Et on pourrait encore faire beaucoup d'émissions, hein, parce que c'est un sujet très complexe. Donc, place à un nouveau thème la semaine prochaine. Rendez-vous donc mercredi sur RCF. Merci et à très bientôt.
Avec le Père Jean-François Noël, dialogue RCF.